Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Tom Barbier, Alan Benoît et Thomas Cathy. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte urbaniste, mais vous allez nous préciser tout ça de toute façon, et lauréat Europan 17 sur le site de Nantes avec Paul Riffaut et Jean-Benoît de Beaucarenne, dont vous portez aussi la voix aujourd'hui. Alors, c'était difficile d'être tous là aujourd'hui, hein, autour du micro. Alors, sans doute auront-ils d'autres occasions de revenir dans Comme d'Archi ?
Certainement, on espère.
Votre projet lauréat Europan 17 s'intitule « Matière première ». Et quelle matière ? Puisque vous vous attaquez au site du CHU de Nantes, donc le centre hospitalier universitaire, dont le bâtiment principal fut conçu par Michel Rouspitz et livré a priori en 1951.
C'est ça.
Un sujet très complexe. Nous allons rapidement venir au sujet dans le podcast. Mais auparavant, j'ai trois questions relatives au goût de l'architecte. Pas le goût relatif à l'esthétique uniquement, mais celui des plaisirs de la table, le plus plein et le plus délicieux au sens large. Alors, aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Et un souvenir gustatif ? On commence par Alan.
Moi, je peux commencer parce que personnellement, je ne suis pas un fin gourmet.
Ah oui,
j'ai pas beaucoup.
Alors justement, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, un invité me disait « De toute façon, on répond à chaque fois oui ».
Eh ben non, je n'ai pas non plus beaucoup de talent culinaire, mais on va dire que c'est un goût en devenir. Tom m'emmène dans différentes adresses, voire même chez lui pour essayer de changer ça. Mais de base, c'est vrai que je n'ai pas une grande appétence sur le manger. Mais c'est quelque chose qui évolue
oui.
tranquillement.
Vous travaillez un peu la question, vous oui. ouvrez au sujet.
C'est ça.
Pas de souvenirs gustatifs ?
Si, des souvenirs gustatifs, oui. Notamment des souvenirs familiaux. Mon grand-père, il vient de Charente-Maritime et il faisait quelque chose qui m'a assez marqué, c'est les éclates de moules. Où c'est vraiment, on prend une planche en bois et on met un clou et on met les moules en rosace autour de ça. On met les aiguilles de pin qu'après, auxquelles on met le feu. Et il y a un côté très graphique et convivial qui m'a... Ça, pour le coup, c'est un souvenir assez
ouais.
marquant.
Oui, c'est un côté un peu cérémonial.
C'est ça, ouais. Plus que gustatif presque.
Alors après, Tom ou Thomas ?
Moi, je suis Tom, je veux bien commencer. Moi, j'aime beaucoup manger. J'ai trois passions, il y a la musique, voyager et manger. Quoi. Et le voyage, évidemment.
Toutes les musiques ou la musique
La musique, globalement.
Actuelle
Faire de la musique, écouter de
ouais.
la musique, regarder des gens jouer. Et moi, j'ai beaucoup voyagé en Espagne avec mes parents. Je connais beaucoup mieux la cuisine méditerranéenne que la plupart des gastronomies. Et c'est quelque chose qui m'a porté très longtemps et qui me porte encore aujourd'hui. Les odeurs de ces cuisines-là, les poissons grillés, la cuisine à l'huile, avec énormément d'herbes, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, d'un autre côté, j'ai une grand-mère qui cuisine extrêmement bien, comme je pense beaucoup de gens... peuvent en attester de leur grand-mère en général, quoi. Et ma grand-mère, c'est plutôt la cuisine française, la traditionnelle, la cuisine de sauce, cuisine de bouillon, cuisine de... Et ça, c'est quelque chose d'assez... Ouais, ça me fait voyager aussi pas mal.
Ça mijote.
Ouais, ça mijote très longtemps. C'est des sauces... elle fait un plat une semaine avant, elle congèle son bouillon, et puis elle réutilise ensuite. Et c'est merveilleux, c'est plein de saveurs.
Mmh.
Et donc voilà, c'est... principalement à ça qui me porte dans la cuisine. J'aime beaucoup ces deux types de cuisine.
Un souvenir plus particulièrement ?
Oui. Il y a mon autre grand-mère qui faisait une excellente crème à la vanille, qui est quelque chose que je ne retrouve pas. Ma grand-mère qui est décédée et qui... c'est une crème pâtissière qui nous servait dès que je sortais du collège à mes cousins et moi. Elle nous récupérait et puis on mangeait ça. C'était génial. Et je la retrouve un peu dans un petit flan aujourd'hui, dans une petite boulangerie pas loin de chez moi. je retrouve ce goût un peu. Mais...
Un petit peu, mais pas complètement.
Mais pas complètement. C'est jamais un égal.
C'est votre petite Madeleine.
Exactement. Ouais.
Thomas.
Moi, j'aime bien manger, j'aime bien découvrir des plats. Et j'aime bien aussi quand je cuisine un petit peu. Et j'ai pas vraiment de talent pour improviser. Certains, par exemple, pourraient avoir ce plaisir de toujours commencer à cuisiner sans savoir quoi faire et y arriver. Moi, j'aime bien partir de recettes. Parce que c'est aussi la recette, trouver une recette dans un livre ou sur Internet. C'est aussi le plaisir de la transmission, de voir une personne qui a écrit une recette, qui veut la partager. On est toujours un peu surpris quand on suit une recette, que ce soit une recette d'une personne amateur ou dans un livre de recettes. On est toujours un peu surpris de certains éléments. Et c'est comme ça qu'on change aussi, qu'on évolue et qu'on fait évoluer notre manière de cuisiner. Et j'aime beaucoup découvrir comme ça, par la transmission de la cuisine.
Bon, un souvenir ?
J'ai aussi un rapport assez familial, je pense, comme disait Alan, au repas de famille. Notre famille se rassemble toujours.
C'est convivial.
On est tous un peu éparpillés. Quand on se retrouve, c'est toujours autour d'un bon repas. Ma mère aime bien faire du couscous à chaque fois. C'est aussi nos racines un peu pieds-noirs. Donc, elle a ce plat, le couscous, qu'on fait beaucoup en hiver. Et c'est un vrai plaisir.
Oui, bon, c'est vrai que la culture pieds-noirs a ramené le couscous.
Oui. Bon.
Ouais, dans les foyers. Alors, on va commencer par le début. Je vais vous interroger, entre guillemets, sur vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie de projet, d'espace, d'architecture, et quelles ont été vos études. Alors, on recommence, Alan, après Tom et Thomas. C'est bien comme ça ?
Oui, très bien.
Comme ça, on peut identifier les voies. Alan ?
Moi, du coup, je viens d'une petite ville de bord de mer qui s'appelle Le Tréport, qui est à la frontière entre la Normandie et la Picardie, où j'ai eu une scolarité assez agréable. J'ai fait un bac économique et social qui me semblait à l'époque le plus polyvalent. Et je ne m'étais pas spécialement destiné à devenir architecte. Et au gré des recherches, et ce qui m'a paru être un métier qui jouait un peu sur cette polyvalence, un peu entre art et technique. Et c'est comme ça que je me suis inscrit en école d'architecture. J'ai fait plein de concours et ça a plutôt bien marché. Et donc, je me suis retrouvé dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, à la base. On va dire que, à force de faire des voyages, je me suis beaucoup intéressé au cinéma également. Je me suis retrouvé rapidement à m'intéresser à la question de la ville. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de projets urbains en école. Beaucoup, je suis parti en Erasmus également à Rome, où j'ai continué à travailler sur la question du cinéma et de la ville.
Mais l'élément déclencheur pour l'architecture.
L'élément déclencheur, je pense que c'est quand même les voyages, l'envie de découvrir les villes, d'arpenter les territoires, essayer de trouver toujours un point un peu haut pour embrasser les villes. Je pense que c'est beaucoup lié à ça quand même. Et donc ça, pour ça, je pense aussi que je suis parti sur le projet urbain avec un aspect plus social qui vient certainement de ce parcours en sociaux, en économie, que je trouvais très ouvert, qui me semblait pourtant pas à l'époque la voie royale pour entrer en architecture. Et j'avais été assez surpris, c'est quelque chose qui était très bien accueilli lors des entretiens, des concours.
Bah, l'économie du projet, c'est quelque chose qui c'est presque le nerf de la guerre.
Oui. Et tout le monde s'imaginait qu'il fallait faire une filière scientifique, savoir bien dessiner, faire des maths. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert et beaucoup aidé par la suite.
Et donc en fait, vous avez fait quelle école ?
L'école l'ENSA Normandie, à Rouen.
À Rouen.
On a tous fait ça, d'ailleurs.
Vous êtes tous les cinq ?
À part Jean-Benoît qui a fait l'école d'abord de Versailles Paysage et ensuite La Villette, mais sinon quatre. Oui.
D'accord.
Sur des années différentes. On est quatre générations.
Tous les deux, trois ans, une génération. Ouais.
Mais vous allez nous préciser tout ça très vite. Alors, Tom.
Moi, je viens d'un petit village de la campagne sartoise. Moins de 1500 habitants, beaucoup de pavillonnaires, voilà là. Le village de campagne, comme on en voit énormément aujourd'hui. Et je découvre l'architecture un peu ici, quoi. Au début, j'habite dans un petit village rue, qui est avec ses petits commerces qui sont adressés sur la rue historique du village. Et petit à petit, je vois les champs se construire.
Vous n'avez pas envie de citer le village ?
Alors, c'est Torcé-en-Vallée, dans la Sarthe. Donc. Et ça avait un caractère... ça reste assez beau au demeurant, mais j'ai vu toutes ces maisons se construire, j'ai vu mon école se remplir. J'ai fait beaucoup de ma scolarité dans des classes préfabriquées à côté de l'école, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et quelques années après, une nouvelle école est construite. Qui se remplit très vite, mais en fait qui se vide aussi très vite. Et donc là, je me rends compte d'un truc qui est, je m'interroge sur pourquoi ça s'est fait comme ça. Pourquoi on a construit une école à un instant T où il y avait ce besoin de toutes ces personnes, d'accueillir tous ces élèves, et que cette école se vide petit à petit, qu'aujourd'hui on est dans un cercle un peu vicieux qui est de reconstruire pour faire vivre l'école. Voilà, ça, moi c'était ma première interrogation, ça a été ça. C'est me rendre compte que y a des choix politiques, il y a des choix qui sont faits.
Qui collent pas avec l'air du temps, toujours.
Qui aujourd'hui pose vraiment question avec l'air du temps, effectivement, et qui moi m'interroge donc déjà à ce moment-là, donc, qu'est-ce que je peux faire pour intervenir là-dedans ? Comment on peut mieux penser les choses, peut-être, sans vouloir...
Mais vous auriez aimé suivre une scolarité dans une vraie école, finalement ?
Oh, bah, c'était
pas
très
forcément.
Bien. J'étais très bien allé dans l'école. Non, c'était génial, c'était une belle scolarité. Et donc voilà, ça c'est mon premier contact. Et ensuite, j'ai fait une filière scientifique dans un lycée général. Et je suis arrivé à l'école d'architecture de Normandie, où là, je découvre le projet urbain. Et je me rends compte aussi de ce qu'est la politique de la ville, de toutes les lois, de tout ce qui a permis de décentraliser aussi le pouvoir. Et c'est ce que finalement a donné ces développements des villages. Et voilà, ça a été tout un quelque chose qui s'est construit, qui est de me dire, voilà, j'ai remarqué ça quand j'étais petit. Je comprends mieux ce qu'est le projet urbain. Je découvre ce qu'est le projet urbain à l'école d'architecture. Et en même temps, je comprends le cadre juridique quand on tout ça. C'est un peu terre à terre comme façon de voir, mais c'est vraiment constitué comme ça. Et donc voilà. C'est
une envie de changer les choses déjà.
C'est une envie de pouvoir agir voilà, ouais. sur ce qui me touche personnellement, qui est le territoire autour de moi. Et comment. C'est vraiment comment aménager tout ça, comment transformer. Bah, sans aménager, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui à plein de gens, mais. Comment agir sur ce qui est autour de moi et ce qui touche finalement tout le monde, quoi. Et voilà, à mon échelle.
Thomas ?
Alors, moi, je viens d'un petit village aussi en Normandie, plutôt, donc pas au bord de mer comme Alan, mais plutôt le long de la vallée de la Seine, Ivil-sur-Seine. Un petit village dont à peu près le tiers est en zone inondable dans les boucles de la Seine. Donc, c'est avant les premiers ponts. Qui sont assez bas au niveau de Rouen, donc c'est encore une zone qui est assez sauvage. Et donc, j'ai fait un bac STI génie civil, plutôt un bac technique. Au début, j'étais pas trop destiné à ça, mais c'est plus les résultats qui m'ont amené ici. Et la question s'est posée, voilà, dans ce cursus, de faire l'école d'architecture, parce qu'ensuite, j'avais des résultats un petit peu meilleurs, mais au début, je m'étais pas vraiment prédestiné à des études, y compris dans la famille. Et donc, c'est venu un peu comme ça, par hasard. Et aussi la curiosité, voilà, d'aller dans un cursus qui n'est pas forcément que scientifique ou technique, mais qui permet de poser des questions. Et voilà, je suis rentré, en tout cas, dans le cursus de l'architecture comme ça, à l'ENSA Normandie aussi, comme Alan et Tom, à une période un peu différente. Et ensuite, arrivé à l'école d'architecture, il y a vraiment quelque chose qui s'est construit dans mon parcours, dans deux sens. À la fois la volonté de découvrir les territoires, d'arpenter les territoires. C'est ce qu'on fait à chaque semestre, le fait d'arpenter un site, que ce soit en architecture, ou en urbanisme, projet urbain, paysage. On découvre un site un petit peu par le milieu, en y rentrant comme ça, par l'arpentage. Ça m'a beaucoup frappé, cette démarche, parce que quand on arpente un site, on découvre un milieu dans lequel il y a déjà des équilibres constitués et dans lequel la question d'intervenir... je trouve, et voilà, toujours très questionnante, parce qu'on se dit il faut amener quelque chose de nouveau, mais il faut aussi ne pas dérégler ce qui est déjà en place.
Avoir de très bons capteurs.
Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, il y a à la fois ce trajet très lié qui m'a petit à petit amené aux questions du paysage, de la géographie et du projet urbain. Et en même temps, une démarche liée plus à la construction, au détail, qui m'a toujours un peu fasciné aussi en école d'architecture. Un semestre, je me souviens, que j'avais fait en master, qui était autour d'un musée, et donc c'était vraiment travailler dans les moindres détails. Le musée, c'est un peu cet exercice de travailler tout dans son ensemble, y compris l'intérieur, etc., le parcours. Et voilà, travailler dans ces deux sens m'a beaucoup intéressé, à la fois la dimension territoriale, paysage, géographie, et la dimension détail, construction, architecture. Et le fait de pouvoir articuler les deux, en tout cas, c'est quelque chose que, au sortir de l'école, j'ai cherché à garder ensemble, en tout cas.
Vous êtes tous les cinq architectes dans l'équipe ?
Oui, c'est ça.
On est tous diplômés, oui.
Diplômés, oui. Architectes diplômés, HMO.
Bon. Et vous travaillez tous en agence, là, actuellement ?
Je suis le seul à ne plus être Tom, à ne plus être dans l'agence où mes quatre camarades travaillent.
Oui, parce qu'en fait, vous êtes connus comme ça.
C'est ça.
Exactement. Ouais. C'est l'atelier Germe et Jam qui est une agence qui s'intéresse, qui fait beaucoup de projets urbains, qui est une agence qui a une démarche qu'on a pu découvrir même à l'école d'architecture, parce que finalement, un des patrons de l'agence était notre professeur à l'école d'architecture de Rouen. Et c'est comme ça qu'on a tous été, on s'est tous retrouvés.
Et pour préciser, on est tous effectivement architectes diplômés, mais on a des parcours un peu aussi différents. Jean-Benoît et Paul, qui ne sont pas là, par exemple, ont aussi dans leur cursus une dimension plus paysagère. Paul, dans un cursus d'échange au Vietnam, fait aussi un semestre plus lié une année plus liée à la dimension paysagère. Jean-Benoît Bocarène est aussi passé par l'école de paysage de Versailles. Donc, c'est des choses qui ont aussi amené à diversifier un peu nos différents parcours.
Oui, à enrichir le projet, finalement. Vous êtes sorti de l'école plus ou moins récemment, c'est ça ?
Plus ou moins.
Ouais.
Plus ou moins. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? En tout cas, sur la trajectoire que vous imaginiez à la sortie de l'école, est-ce que vous êtes en phase avec vous-même ou est-ce que...
C'est difficile, le sentiment d'accomplissement, il est...
Oui, mais il est toujours en marche.
Moi, j'étais quand même assez surpris en sortant d'école d'avoir... ça, c'est certainement le fait d'avoir été dans une agence où il y avait notamment pas mal d'enseignants dans les associés. J'étais assez surpris d'avoir quand même une certaine continuité, au moins théorique, entre le... En fait, juste entre l'école et le travail d'agence. Donc ça, c'était quand même assez agréable. Et je ne m'attendais pas forcément, parce que j'avais eu d'autres expériences en stage un peu plus compliquées là-dessus. Et c'était très agréable d'avoir des gens qui avaient une volonté de partager aussi et de travailler avec ces gens-là. Et j'étais aussi agréablement surpris de l'échelle des projets sur lesquels j'ai travaillé assez rapidement. Et ça a permis de bien enclencher les choses. Après, en termes d'accomplissement, je pense que c'est encore en cours, quoi.
On est à l'aube de ça, ouais. On a pu tous expérimenter des échelles de projet, comme dit Alan, qui sont extrêmement passionnantes, hyper formatrices. On a abordé des questions du territoire, de la ville, qui sont, je pense, c'est une chance qu'on a eue dans ce cadre-là. Et moi, personnellement, le sentiment d'accomplissement, je l'ai un petit peu à travers des projets comme Europan, même si c'est plutôt théorique pour l'instant. Mais on a vraiment cette volonté aussi d'aller un peu plus loin et de pouvoir aussi, on se rend compte, ça fait plusieurs Europans qu'on fait, que peut-être on peut essayer d'agir en notre nom aussi, être capable de faire évoluer cet héritage.
C'est une manière de vous tester.
Oui, exactement.
Oui, tout à fait.
Alors vous, Thomas, vous aviez quelque chose à ajouter ?
Oui, alors c'est vrai que ce sentiment d'accomplissement, c'est toujours c'est un peu ambivalent parce qu'il y a des choses... dans lequel on se dit peut-être oui, les choses sont passées un peu comme j'imaginais et en même temps c'est le début de quelque chose parce qu'on a vraiment envie là, c'est un moment où notre équipe a envie de peut-être de se tourner vers un avenir plus qu'on pourrait s'approprier nous-mêmes. Moi en tout cas, mon expérience d'agence en tant que salarié m'a vraiment apporté une qualité que je recherchais, c'est d'aborder plusieurs aspects du projet, que ce soit dans la maîtrise d'œuvre très détaillée, y compris le suivi de chantier, mais en même temps sur des questions territoriales soit très opérationnelle, soit très ouverte sur des concours d'idées qu'a pu faire l'agence, comme l'atelier des territoires ou Amiter. C'est des ateliers auxquels a participé l'agence. Donc, on a été plusieurs. Par exemple, Tom avait travaillé sur Amiter. Moi, j'avais personnellement travaillé sur les ateliers des territoires en Normandie. Et Paul avait travaillé sur l'atelier des territoires dans les Alpes. Donc, plusieurs. Ça a permis aussi d'explorer pas mal de dimensions auxquelles j'étais en tout cas attentive au sortir de l'école.
Et alors, on en vient au projet. Peut-être que si vous avez envie de parler d'autres projets qu'Europan, on peut sortir du cadre. Mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Vous êtes attaqué à un sacré morceau. Qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir ce sujet ?
Ça a été le sujet de grand débat entre nous. On était cinq sur ce projet. Cinq avec des caractères bien trempés et nos propres idées. Mais on avait une culture commune, donc on a réussi quand même à s'entendre sur énormément de choses. Et on s'est dit, on fait combien on peut en faire des projets européens sur une année? C'était sur un concours. Au début, on voulait en faire deux. Un projet en France, un projet à l'étranger. On s'est dit, voilà. et on s'est recentré. On a beaucoup hésité avec d'autres sites français. Et on s'est recentré sur Nantes en se disant, c'est un des enjeux les plus récurrents aujourd'hui dans les villes. On a ces grands équipements construits dans les années 60 qui arrivent en fin d'usage, qui sont petit à petit transformés, qui sont délaissés. Notamment les hôpitaux, c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est que la plupart des villes construisent des nouveaux hôpitaux et quittent l'ancien. J'ai eu l'exemple d'Ajaccio, il y a l'exemple d'Orsay, il y a Nantes avec le CHU de Nantes.
Oui, d'ailleurs, pourquoi ?
Et oui, alors que et ça pose beaucoup de questions parce que c'est des équipements adressés à tous, c'est un bien social, je dirais, et aujourd'hui qui se retrouve en dehors des villes, donc l'accès aux soins est-ce qu'il est compliqué, est-ce que voilà, c'est assez relatif d'un changement peut-être de mentalité qui est dans les années 60 on construit des grands équipements pour les gens et aujourd'hui on se dit bon. On va les enlever de la ville, qu'est-ce que ça pose comme question ? Voilà.
C'est même des formes urbaines assez différentes. Quoi. Avant, on avait vraiment l'espace ouvert, quelque chose de très flexible, qui permettait effectivement à l'hôpital de grandir, d'évoluer. Là, aujourd'hui, on a plus des gros blocs assez opaques qui se retrouvent effectivement éloignés des centres-villes.
Avec cette particularité du site de Nantes, c'est qu'effectivement, il est le CHU, en tout cas historique, celui qui va partir, il est vraiment en plein cœur de la ville nantaise. Et c'est vrai que, autant sur la partie architecturale, il est... Vraiment, il est le témoin de son époque. Il y avait beaucoup de CHU qui ont été faits. Voilà. Mais austère, mais on va en parler, mais aussi très flexible. On pourrait le comparer à des CHU comme celui de Nantes, Bordeaux ou Rouen, qui a une architecture un peu similaire. Mais celui de Nantes est vraiment extrêmement central. Ça nous a vraiment frappé, en fait.
En effet.
Il y a deux monuments. À Nantes, il y a deux monuments. Il y a la Tour de Bretagne et le CHU. C'est les deux.
Et tout près.
Et c'est les deux éléments qui marquent le paysage partout. Et c'est des grands marqueurs du paysage nantais. Et si on s'est intéressé à ce projet, c'est à cet équipement, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'évolution du site, le site qui s'est densifié énormément, nous a vachement intéressés. On s'est promené autour, on s'est rendu compte que, bon, il y a la théorie, c'est très intéressant d'avoir cet équipement ici, mais la réalité, c'est que ça a créé des arrières sur les rues, ça a créé aujourd'hui, c'est un élément très dense et très compact qui est, au final, qui a une situation incroyable, mais qui ne peut pas en tirer parti de par la superposition d'usage et la densification, le côté très dense de ce site-là. Et donc on s'est dit, voilà, c'est un terrain de jeu très propice parce que tout est là. Finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour réussir à redonner ce site à la ville, qu'il se réouvre et que ce soit plus un îlot opaque et fermé sur lui-même.
Alors justement, l'ADN de réversibilité de ce mastodonte en béton.
Il y a la question du bâtiment lui-même, de la croix qui est vraiment le bâtiment emblématique. Il y a la question de ce qu'il y a autour, tous ces bâtiments existants qui se sont agrégés à cet hôpital. Il y a la question du sol, parce que le thème nous repense, c'est la question du vivant. Et ça posait la problématique assez importante de comment on ramène le vivant sur ce site qui est aujourd'hui artificialisé, imperméabilisé à 95%, où l'eau n'est pas infiltrée, l'eau de pluie n'est pas infiltrée. Et donc là-dessus, on a essayé d'apporter deux réponses sur la question du sol. Enfin, il y a l'idée d'un sol-ville qui est tout un maillage d'espace public qui va réouvrir le site, et un sol-loire qui est une trame de renaturation qui va remettre l'eau au cœur d'un grand parc et qui va reconnecter aussi tout le système hydraulique du site à la Loire. Et avec l'idée de renaturer le site sans apport de terre végétale extérieure, qui est assez important, ce qui se fait encore sur certains sites, qui s'est fait comme ça historiquement.
Donc là, on peut retrouver la terre.
Il y a plusieurs...
C'est l'idée d'un processus sur le temps long.
C'est partir du postulat que... Une action rapide implique des interventions qui n'auront pas forcément d'intérêt écologique. C'est-à-dire, ce que disait Alan, aller chercher de la terre fertile dans un champ pour l'installer sur le site, pour renaturer très vite et avoir un effet waouh sur le site, c'est intéressant, mais c'est pas une démarche pour nous qui correspondait à la réalité des choses, qui est aujourd'hui, c'est un site pour lequel il faut réinstaller un cycle de l'eau, faut reconstituer des sols vivants qui vont se faire. Ce qui se fait pas d'un seul coup. Faut réinstaller une végétation forte qui va s'adapter aux évolutions climatiques. Voilà, c'était un sujet de se dire, on installe le parc, c'est l'élément fondateur, et on lui laisse le temps de s'installer en étant la première action sur le site. Et ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que la question de la matière première du site, c'était voilà, se dire, finalement, on a tout ça, on a un sol très occupé, on a des bâtiments qui occupent énormément d'espace, c'est très dense. Et peut-être que la démarche, c'est une démarche un peu chirurgical de soustraction, de se dire en fait, oui, il y a rien à réinventer. Il y a des choses qui existent. On va juste essayer de les révéler un peu plus facilement en créant une percée qui va de la ville à la Loire, en accent une traversée est-ouest qui va reconnecter les différents quartiers grâce au site. Et en fait, tout ça, c'est à l'échelle plus large, c'est réinscrire cet espace dans un système paysager plus grand qui est celui de la Loire, en fait. Qui aujourd'hui, Nantes. Des grandes interventions, il y a la Petite Hollande qui est en train d'être transformée, il y a toutes les berges de Loire qui sont en projet, il y a énormément de choses, et il y a cette pièce qui a un potentiel incroyable, qui peut tout raccorder. Et ça, il suffit de peu de choses pour réussir à finaliser en fait ce parc. Et donc tout ça, c'est vraiment la question de la matière première, qui est de se dire le sol est une matière, l'existant est une matière et la ville est une matière, et on va travailler à partir de
tout
ça.
C'est ça, c'était décliner la démarche à trois échelles, effectivement, à la fois le contexte, l'existant comme contexte, l'existant comme le patrimoine bâti duquel on hérite, et l'existant comme un sol à retrouver, à restituer, mais avec ses ressources propres.
Alors, ce paquebot en croix, comment on peut réussir à lui redonner de l'usage alors qu'il a été fait pour être un hôpital?
Alors, ce qui est assez étonnant, que ce soit pour le bâtiment en croix conçu par Michel Rouspitz, mais ça marche, ça vaut aussi pour tous les bâtiments, parce que pour expliquer un petit peu l'hôpital originel, donc c'est ce bâtiment en croix qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale où le site avait été détruit. Et il y avait un peu l'idée au début d'un bâtiment en croix dans un grand vide, un grand parc, mais qui, petit à petit, pour les besoins aussi hospitaliers, s'est vu densifier. C'est ce qui est fait qu'aujourd'hui, on est dans un îlot très autarcique. Avec des bâtiments emblématiques, comme celui-ci, ou l'université qui a été conçue par Louis Aretsch. Mais on a aussi des bâtiments beaucoup plus ordinaires qu'on pourrait trouver pas forcément très intéressants. Tous ces bâtiments, ils ont quasiment tous une chose en commun, c'est que c'est une architecture hospitalière et universitaire, parce que c'est un CHU. Et c'est des bâtiments finalement assez permissifs en termes de structure. On a beaucoup de systèmes d'ossature, avec des hauteurs sous plafond très généreuses.
Oui.
Alors, pas tous, mais en tout cas, il y en a vraiment une très grande majorité. Il y avait cette recherche. Et donc, ça se traduit par une architecture très ordinaire, y compris sur le grand bâtiment de Rouspitz. Au-delà de sa dimension monumentale, c'est une architecture qui se veut ordinaire, mais flexible, et qui assume aussi une certaine monumentalité. Et donc, le bâtiment en croix, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bâtiment en béton qui est face à nous, qui présente quasiment les mêmes façades partout, c'est juste qu'il y a des façades avec des fenêtres plus petites, des fenêtres plus grandes, mais globalement c'est que on a des fenêtres sur toutes les façades, il n'y a pas de façade servante entre guillemets, et il a un rapport assez équivalent à la ville, que ce soit la Loire ou la rive nord de Nantes. Mais cette monumentalité, en fait, elle est cachée derrière tout un système en ossature, parce qu'en fait le bâtiment c'est vraiment comme les buildings américains. C'est une structure en métallique, en ossature, y compris en façade, où on va retrouver des poteaux en façade, mais c'est que des éléments en béton préfa qui viennent s'accrocher. On a trouvé ça très intéressant de se dire, il y avait presque peut-être une volonté à la base de la conception de ce bâtiment, de se dire, en fait, il pourrait être réversible. On va pas faire de mur de refend, on va pas faire de façade porteuse, au-delà des poteaux qui sont en façade, et ça va peut-être permettre une certaine réversibilité. Et donc, quand on s'est intéressé à la reconversion de ce bâtiment, un peu comme, je dirais, le témoin de la reconversion du site, de tout le patrimoine bâti du site, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de l'envisager comme une résidence intergénérationnelle, parce que son fonctionnement en croix, aujourd'hui, il est très lié au fonctionnement des services. On a le cœur de la croix, c'est par là où on arrive. Et ensuite, il y a les différents services hospitaliers. Et donc, c'était l'idée de dire, on va habiter les monuments. On va habiter ce grand édifice, ce paysage, dans une visée intergénérationnelle qui pourrait associer du logement libre, logement social, donc des plutôt grands logements, on va dire, des logements plus petits qui pourraient être des résidences personnes âgées, mais aussi résidences étudiantes et jeunes travailleurs. Donc différentes typologies comme ça qui pourraient s'articuler et qui pourraient prendre cœur, en tout cas, enfin, faire exister cet espace de rencontre au cœur de la croix. Qu'on a vraiment voulu se dire, voilà, l'intérêt de cette résidence intergénérationnelle, qui est un peu, qu'on peut aussi appeler une unité de voisinage, c'est que tout le monde se rencontre au niveau de la croix, que ça pourrait, entre les différents types de programmes, logement libre, logement intergénérationnel, etc., pourrait se rencontrer dans cet espace.
Comme disait Thomas, il y a eu deux réflexions. Il y a D'abord, comment on habite cet ensemble de 18 mètres d'épaisseur et comment on rend ça vraiment possible d'envisager du logement dans des constructions aussi larges. Donc là, il y a aussi un travail intéressant sur le logement, il disait les typologies. Et il y avait comment on s'inscrit dans une dimension aussi qui est celle justement de l'habitat communautaire, le familistère, l'unité d'habitation de Le Corbusier. Comment on peut envisager une évolution de cette pensée du collectif à l'échelle aujourd'hui de la réhabilitation et de grands édifices hospitaliers qui ont leur capacité propre. On a eu beaucoup de débats sur le fonctionnement de ça, parce que c'est des espaces comment on habite ensemble. C'est le commun constitue le socle de l'habitat collectif dans ces projets-là. Et aujourd'hui, ça se perd énormément. On est sur une production presque industrielle, industrialisée du logement, même tout court.
C'est ça.
Où les espaces communs, c'est des espaces servants, c'est des espaces qui n'ont pas forcément vocation à être support d'usage. Et bon, je ne veux pas généraliser, mais c'est...
Oui, ça dépend.
Non, ça dépend. Ouais. Mais globalement, c'était comment nous, on peut créer du support de rapport entre ces personnes-là et finalement...
Pas créer une usine à gaz, mais au contraire.
Exactement, ouais. Et donc, Thomas disait, le cœur de la croix peut devenir un lieu de rencontre qui est hyper intéressant dans le cadre d'habitat multigénérationnel, où on peut avoir des espaces communs qui vont être adressés à la fois à des étudiants, à des personnes âgées, puis qui peuvent créer de la vie aussi tout au long de la journée. Et d'un autre côté, comment on envisage un aspect plus résidentiel adressé à par exemple, à des familles dans des logements un peu plus grands, et sur quels espaces vont être support de rencontres entre voisins, et donc là, on a des grands débats sur
question de logement en coursive ou pas en coursive, à quel point on lie le commun et l'intime. Et d'ailleurs, dans cette variation qu'on pouvait avoir sur les logements, sur les têtes, on va dire, de la croix, qui sont plus éloignées de cette croix, enfin de ce centre intergénérationnel, on imaginait plus les logements libres, effectivement, qui pouvaient fonctionner avec les cages d'escalier existantes, avec aussi de nouvelles cages, mais qui seraient un peu plus éloignées de ce réacteur un petit peu, pour avoir plus de ces différentes échelles d'intimité.
Est-ce que vos cultures respectives, vous avez senti qu'elles étaient réinvesties dans ce débat, énormément.
Oui, complètement. On était d'accord sur la base, et après on était en grand désaccord sur la forme.
On a beaucoup discuté, c'était des vrais débats critiques, juste sur le bâtiment, alors que effectivement, on a aussi voulu développer dans ce projet toute une dimension paysagère, d'inscription dans la ville, végétale, mais le bâtiment en croix qu'on a voulu vraiment investir comme une partie du projet qu'on présentait, on a eu beaucoup de débats sur la... Parce qu'en fait, on se rendait compte que le bâtiment posait plein de questions hyper intéressantes et sur sa modularité possible, etc. On a un bâtiment qui est très bien, enfin, qui a beaucoup d'orientation, pas trop de masse, on va dire, autour, mais il fait quand même entre 16 et 18 mètres de large. Donc, c'est la question comment qualitativement habiter dans un bâtiment aussi large, avec une autre particularité, c'est qu'il a des hauteurs sous plafond très généreuses. On est... entre 3 et 3,60 mètres de hauteur sous plafond, de hauteur de plancher à plancher.
Mais qui ne permet pas, au regard de la loi et des normes, de faire une double hauteur.
Non, c'est ça. Mais en tout cas, ça permet de dire, là où peut-être 18 mètres, on commence à dire, c'est compliqué de faire des logements qualitatifs là-dedans. En même temps, une hauteur sous plafond de 3 mètres, ça permet peut-être d'aller chercher, de se permettre plus de profondeur. Et l'idée principale, parce qu'on a parlé des différents programmes qui pouvaient, qu'on voulait en tout cas intégrer, faire se rencontrer dans cette croix, dans ce bâtiment en croix, il y a quand même une idée d'unifier tout ça d'un point de vue architectural, c'est qu'on va travailler en creux, c'est-à-dire qu'il y a ce bâtiment minéral avec des éléments en béton préfabriqué qui viennent sur l'ossature. On va essayer de garder cet esprit, peut-être d'intervenir sur certains pour les ouvrir, c'est-à-dire passer d'un élément fenêtre à un élément loggia, un peu plus large, mais garder cette minéralité qui était voulue à la base, pour aussi être dans la continuité de l'écriture de ce bâtiment, mais en fait de créer une épaisseur intérieure, c'est-à-dire qu'en fait si on va faire quelle que soit la typologie qu'on fait, on vient creuser en quelque sorte des deux côtés, en créant une façade légère qui est dissociée de la façade structurelle en façade, et une double peau intérieure qui permet d'installer une dimension résidentielle, et de chaque côté, d'avoir une épaisseur extérieure appropriable, alors soit quand c'est des grands logements, d'avoir peut-être deux loggias de chaque côté, que ce soit nord-sud ou est-ouest, mais dans les programmes avec des unités de logement plus petites comme la résidence personnes âgées ou les logements étudiants, de se servir d'une épaisseur pour avoir une coursive distributive qui soit dissimulée derrière la façade et voilà, de se poser cette question d'une double épaisseur appropriable.
Le béton est en bon état.
Il y a une apparence, ce qu'on peut voir, il y a quand même un état pour un bâtiment aujourd'hui qui a plus de 50 ans.
Oui, 70.
70 ans, effectivement. Même. Le béton semble quand même en bon état, mine de rien. Nous, ça nous a aussi dirigé sur le parti pris de plutôt être dans une logique de creusement sur la façade plutôt qu'une intervention extrêmement lourde. C'est-à-dire, bon, ce patrimoine est constitué par une minéralité très forte, on dirait un gros bloc qui a été taillé et dans lequel on a fait des petits orifices. Et donc on est parti du postulat qu'on pouvait le garder, mais on n'a pas évidemment ce recul et toutes ces données aujourd'hui de l'état réel du bâtiment. Mais il y a une apparente solidité, du moins, qui se dégage de cette construction.
C'est plutôt la question de l'usage, finalement, qui fait que ce bâtiment aujourd'hui, il ne marche plus là où il est. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous de lui redonner un usage, notamment résidentiel, même si ça demandait une certaine intervention sur les façades, parce qu'il y a la question du patrimoine de ce bâtiment,
ouais, à quel point on intervient. Enfin, c'est tombé maintenant, c'est... Il y a encore une obligation de...
Pas forcément, mais c'est un témoin...
Oui, c'est sur Route Street, c'est quand même...
Il est labellisé, enfin, il n'est pas classé au monument historique, mais oui. Il est labellisé quand même.
Donc, à quel point une intervention plus ou moins lourde là-dessus était des grands débats pour nous, mais...
Oui, c'est pas anodin.
C'est un vrai sujet de rendre le patrimoine de la reconstruction souhaitable aussi. C'est un.
Non, c'est, mais c'est vrai.
À l'échelle de Nantes, il y a des très beaux projets de Hospice qui ont été réalisés. Notamment, il y a la cité du Grand Clos à côté de la Halvec qui est magnifique. Il y a un autre projet plus au nord de Nantes, résidentiel, sur un des ensembles de petits plots qui est magnifique aussi. Et c'est l'histoire de Nantes, mine de rien.
Bien sûr.
Et c'est notre. Comment dire ? On a voulu avoir un peu de respect vis-à-vis quand même de cette histoire et de ce patrimoine.
Bon, et c'est tout à votre honneur.
Pour avoir un petit peu rencontré les élus au moment du début du concours, là on est dans une phase où on est un peu entre deux, les résultats étaient dits et on va les rencontrer plus tard, mais on les avait rencontrés au tout début, on avait senti qu'ils étaient aussi attachés à ce bâtiment en croix. Il y avait vraiment cette volonté de ne pas faire table rase, en tout cas de le faire exister.
C'est vrai que d'autres projets sur ce site avaient peut-être la vision d'un avenir sans cette croix. Donc c'est pour nous, avoir une intervention un peu forte sur le bâtiment, c'était peut-être un petit peu risqué sur la question du concours par rapport au jury ou quoi que ce soit. Mais pour nous, ça faisait partie... il fallait qu'il ait un usage pour qu'il y ait quelque chose qui permette de garder ce patrimoine aussi. Quoi.
Et vous pensez que ça va donner lieu à une commande? Vous ne savez pas trop encore?
On ne saurait pas se prononcer là-dessus.
On a l'expérience de Grenoble sur Europe 16. On a, avec Jean-Benoît Boucarène et Paul Riffaud, on a déjà participé à Europe 16. Donc. Et la commande est arrivée 2 ans après. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, c'est un processus qui est très très long. En général, j'ai l'impression qu'Europan, il y a quand même une commande qui arrive après. On espère vraiment, parce que c'est un site qui nous fascine, qui nous passionne. On s'est beaucoup investi dedans. Et donc, on est plutôt optimiste là-dessus. Et c'est d'ailleurs, on est en train de se constituer, nous, en agence. On est en train de monter une agence actuellement.
Ça va faire un grand vide chez votre employeur.
Là, on est vraiment dans une phase où on étudie aussi les possibilités de faire le pont entre les deux sur le long terme, voir aussi ce que la métropole nantaise va nous proposer. Et pour pouvoir ensuite, nous poster sur peut-être d'autres projets, etc. Mais c'est le début de quelque chose.
En travaillant ensemble, ça fait plusieurs éditions d'Europan que les uns les autres, on se lance un peu dans l'aventure de répondre à ces concours d'idées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une bonne accroche et une bonne inertie entre nous. On s'entend assez bien. Et donc, là, ça a été un peu le déclencheur de se dire bon, peut-être qu'on fasse quelque chose de tout ça. Donc oui, actuellement, là, on est en train de faire les démarches pour créer notre agence. C'est en discussion entre nous encore sur le.
On est en plein dedans.
C'est en plein dedans. Ouais,
c'est chouette.
Ouais, ouais.
Donc un collectif de 5.
C'est ça.
Ouais, on est
pour l'instant en tout cas
sur ce qu'on donne.
Qui se fera en parallèle dans un premier temps avec le travail en agence.
C'est ça. Ouais.
Et c'est vrai qu'Europan a un peu poussé à ça aussi. Au début, moi, je sais que personnellement, quand je me suis lancé dans Europan, c'était aussi pour avoir une respiration en dehors de l'agence, de retrouver le dessin par soi-même, même si l'agence est assez raccord avec nos valeurs. Ça faisait du bien de s'aérer l'esprit, de se retester soi-même.
Oui, bien sûr.
Et là, en plus, le fait que ça marche plutôt bien, d'être lauréat, ça pousse à vouloir aller un peu plus loin.
Vous allez déménager à Nantes ou pas? Peut-être pas.
On verra. On se questionne sur pas mal de choses. C'est vrai que c'est...
C'est tentant.
C'est très tentant. Après, l'agence ne se ferait, dans l'idée, ne se ferait pas sur seulement ce projet. En fait, on est assez motivé à vraiment
se positionner.
Mm-hmm. Exactement. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Et puis, c'est ta raison, Hélène. Il y a aussi quelque chose, c'est que on en a pas parlé, mais c'est la question du dessin. Oui. Ça a été nous l'occasion de se détacher des outils informatiques, de réussir à reprendre en main nos routings et nos calques. Et c'est un plaisir d'analyser aussi la ville comme ça, de dessiner sur des grandes axonométries, prendre le temps de comprendre le territoire, de le dessiner, d'aller dans les moindres détails, de le décortiquer. Et c'est le cadre du concours est intéressant pour ça, parce que le cadre du concours est intéressant pour se rendre compte de tout ça. Mais c'est aussi intéressant de réappliquer ça par la suite, de se dire, voilà... Aborder la ville par le dessin, c'est aussi un sujet hyper intéressant et passionnant et un peu libérateur. Ouais. C'est...
Alors justement, ce que vous venez de dire, vous connaissez la rue Carvégan. Juste devant l'entrée du CHU, il y a une rue avec plein d'immeubles baroques et qui dansent un peu, qui sont de Guingois, qui ont des fondations sur pilotis, je crois, en bois, d'après ce que j'ai compris. Si ma culture est encore au point et ma mémoire me fait pas défaut, les fondations de cet hôpital, est-ce qu'un jour il peut être déstabilisé?
On n'a pas eu d'études précises là-dessus. Après, c'est vrai que la particularité de ce site, c'est qu'il est construit sur les remblais de l'ancien hôpital. Enfin, l'ancien hôpital a servi de remblai. Et là où l'ensemble de cette ancienne île, qui comprend aussi toute la partie jusqu'au port, il y a beaucoup de zones inondables ici, sauf voilà, le CHU, c'est totalement hors zone inondable. Donc il y a quand même une nature de sol assez artificielle de remblai, mais qui n'est probablement pas exemple des questions d'inondation.
Et puis au-delà de ça, ces bâtiments penchés qu'on voit à Nantes, ils ont été construits avant...
Bah, 17e.
Et avant, largement avant le comblement de la Loire, du bras
oui,
de Loire.
Oui, bien sûr.
Et qui a fait qu'aujourd'hui, ce chapelet d'île s'est transformé en un territoire continu.
Bien sûr.
Et l'hôpital, lui, a été réalisé en tenant compte de la nature du sol. Et mine de rien, ça a été parfaitement adapté. C'est des grands pieux qui, sur 30 mètres, qui vont chercher une fondation...
profonde.
Ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, on pourrait se poser ces questions-là, mais la nature des constructions attenantes, c'était de s'adapter à ce milieu humide et à ce milieu de la Loire. Et finalement, ce bâtiment, lui, avec l'ingénierie moderne, est allé chercher encore plus loin. Et...
C'est vrai, ce qu'on n'a peut-être pas assez au début, mais c'est que vraiment, on est sur un site qui, il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles, était vraiment au cœur d'un système Loire. On avait un bras de la Loire qui passait juste au nord du site, qui est aujourd'hui le grand cours, je ne sais pas comment il s'appelle, on pourrait appeler le cours Feydeau, qui relie le château des Ducs,
la petite Hollande,
la gare, etc. Aujourd'hui, avant, c'était un bras de la Loire. On avait aussi le cours des 50 otages qui était en fait l'Erdre, tout simplement.
Oui, l'Erdre qui a été comblé.
Détourné, busé pour revenir au niveau du port de plaisance. Et on était au cœur d'un système Loire. Et comme le disait Tom, toutes les anciennes constructions ont tenu compte de ça, mais c'était quand même un milieu assez humide. Le moment où le CHU, le nouveau, s'est fait, il y avait eu préalablement tout le comblement de ce grand bras nord de la Loire, ce qui fait qu'on était déjà plus vraiment dans un système. Loire, en tout cas, un système hydraulique de la Loire.
Votre projet prévoit une transparence en rez-de-chaussée?
Oui, l'idée est vraiment de tout ouvrir, de démolir aussi certains bâtiments ponctuellement, et de surtout pas reconstruire, ça c'est assez important, même si certains ont dit qu'on était un peu interventionniste dans le fait de retirer certains bâtiments. Mais c'est aussi une façon de préserver l'existant et de donner plus de valeur en lui donnant une ouverture sur un parc, une adresse, des vues, de la lumière, du végétal. Et
de l'orientation, comme vous le disiez.
Là, c'était un grand sujet, c'était réorienter cet espace-là aussi.
Retrouver la Loire.
Oui, un grand système nord-sud pour reconnecter la ville à la Loire, effectivement. C'est ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les quelques rues qui bordent le CHU sont assez d'une assez austère. Et en fait, on peut. Voilà, il y a.
Ça donne envie, en tout cas.
Ça donne envie de faire, ouais.
Enfin, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, la rive nord de Nantes est dans un système très frontal avec la Loire. Et le projet du CHU et aussi ce que disait Tom tout à l'heure, le Nantes qui s'est positionné dans l'idée de faire un grand parc de la Loire. Enfin, il y a un projet Loire au cœur qui est porté par l'agence Terre de Paysage qui concerne vraiment toute la rive nord de la métropole. Et en fait, le CHU pourrait s'inscrire là-dedans. Il y a vraiment l'idée de retrouver une profondeur de la perception, de la manière dont la Loire est vécue, pas seulement sur les berges, mais aussi dans une certaine profondeur, qui est une profondeur paysagère, mais aussi climatique et de la perception en général.
Et puis, il y a, pour rebondir là-dessus, il y a aussi une très belle culture urbaine à Nantes, avec notamment l'île de Nantes et tout le travail de chez Metoff, qui nous a vraiment inspirés aussi. C'est aussi pour ça qu'on a pris le site. C'est qu'on s'est dit, voilà, Nantes, c'est emblématique et surtout un territoire qu'ose essayer des choses. Je pense qu'il y a assez peu de villes avec
des quartiers. Bordeaux aussi.
Mais avec des quartiers comme celui de la gare, quartier Malakoff, Prégaucher, avec des échelles de bâtiments qui sont presque hollandais, qu'on ne voit pas en France normalement. Et on s'est dit, voilà, on a une maîtrise d'ouvrage qui est prête à porter des projets un peu fous. Faut se lancer ici, ouais.
C'est vrai que l'île de Nantes a vraiment amené cette culture du palimpseste, de l'existant, le projet initial, et ça a vraiment influencé la manière de repenser l'aménagement, le paysage et le projet urbain en France. Vous parliez de Bordeaux. Bordeaux, c'est vrai qu'il y a aussi ces questions-là, mais il y a tellement eu une problématique de densité à Bordeaux qui voulait, voilà, c'était une ville un peu déclassée parce que Bordeaux n'était pas un port. Donc il y avait un peu cette idée dans les années 2010 d'avoir un grand boom démographique avec 50 000 logements par an. Et donc, ce qui a amené des grands sites qui prennent à la fois en compte la dimension paysagère, le réusage de certaines friches industrielles, mais en même temps une certaine densité qui est vraiment particulière à la manière dont Bordeaux s'est projeté dans un grand projet de renouvellement d'attractivité.
Bon, ce qu'il y a, c'est sur l'île de Nantes, c'est assez concentré, en fait.
Oui.
Donc moi qui ai vécu la ville avant, à chaque fois que j'y retourne, je dis tiens, encore un nouveau.
Ça répond, c'est vrai que ça répond à une économie aussi du projet. C'est la densité permet de produire beaucoup de logements et le logement permet de rendre un projet rentable sur un site pollué, certainement un site avec un passé industriel. Donc effectivement, c'est aussi une des raisons de cette densité, certainement. Et voilà. Ouais, ouais.
Et c'est vrai qu'en plus, sur l'île de Nantes, on arrive sur une phase où il y a eu d'abord beaucoup d'espaces publics, toute la berge nord.
Le conservatoire, le palais des sports.
Il y a eu une certaine manière de donner du sens au vide. Et là, aujourd'hui, on est dans une phase où il y a le nouveau CHU, il y a toute le cœur vraiment entre le CHU et la rive nord de l'île qui est en cours de densification. Donc là, il y a cette nouvelle dimension dense qui est en train de se constituer à Nantes qu'on n'avait peut-être pas forcément, qu'on percevait pas forcément si facilement au début.
Ouais. Bon, allez, suite au prochain épisode. Hein. En tout cas, je suis à fond sur votre projet et j'espère qu'on le rendez-vous dans quelques années, peut-être.
On l'espère. Oui.
Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender ce monde un peu compliqué ? Vous avez tout l'avenir devant vous. Là, c'est un peu effrayant en ce moment. Il y a des nouvelles générations d'étudiants qui arrivent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Bon, je pense qu'il faut continuer de s'y ouvrir sur ce monde, même si effectivement on a envie d'un peu de couper la radio ou la télé, que c'est un peu. C'est difficile de ne pas toujours être négatif. Mais prendre du recul, faire des pauses, mais rester toujours connecté à ce monde.
Il y a un peu une dimension qui est. On parle beaucoup de changement de paradigme, qui serait plus. D'ailleurs, c'était un des thèmes principaux, enfin, je crois que c'était même le thème de reprendre cette année, la dimension du vivant, pas seulement anthropocentré, mais le vivant en général, la dimension écologique. Donc on sent que dans les esprits, il y a un changement de paradigme sur le fait de replacer l'écologie un peu au cœur, et est-ce que ça met ou pas en crise une certaine pratique de l'architecture ou l'urbanisme. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a vraiment l'idée de la radicalité. C'est-à-dire que si on veut changer de paradigme, est-ce qu'il faut faire table rase? Parce que c'est tous les changements de paradigme au XXe siècle ont été faits comme ça, par table rase. On recommence de zéro. Et donc là, il y a peut-être la recherche, en tout cas, l'intérêt, il y aurait un intérêt de changer de paradigme, mais de peut-être trouver une radicalité dans la continuité. C'est-à-dire et donc ça pose de vraies questions d'intégrité. Est-ce qu'on veut vraiment, par exemple, sur ce site, il y avait la question Est-ce qu'on veut tout raser, faire un parc, on est au bord de la Loire, mais donc ça veut dire tout raser, ça veut dire que on recommence de zéro, on va.
C'est pas dans l'air du temps en ce moment. On se rend compte qu'il faut réutiliser beaucoup.
C'est ça. Et donc comment on peut réussir à s'inscrire dans un paradigme de l'écologie en étant dans la continuité parfois de certaines choses qui n'étaient pas forcément bien pensées. Donc c'est la question de la réversibilité.
Puis il y a aussi la question de réinterroger justement la dimension écologique qui est aujourd'hui on observe un caractère écologique dans la construction uniquement par le prisme de l'énergie et du carbone. C'est un sujet, parce que ça ne se réduit pas à ça. Et ça peut amener à des choses un peu réduites. C'est comme regarder par un paysage par un hublot. Et c'est se dire, voilà, on oublie tous les autres facteurs. Mm-hmm. Et donc, il y a vraiment une question de prendre du recul sur ces questions-là, essayer d'aborder quelque chose dans son ensemble et dans toutes ces problématiques.
Et puis, ne pas non plus couper le lien avec le savoir construire.
Bien sûr.
Parce que vous êtes architecte avant tout.
C'est ça.
Et c'est vrai que quand on participe à des jurys d'étudiants, on voit beaucoup de cabanes, entre guillemets. Et ça pose question. On peut pas... Alors, il y a des cabanes très malines et très bien pensées et très pertinentes, mais avec ce regain du bois, etc. Mais comment on va faire si vous perdez... si vous n'êtes plus sachant sur justement des architectures telles que le CHU de Nantes.
Ça pose beaucoup de questions. Enfin, là, on arrive peut-être sur d'autres dimensions, mais la question du carbone, si on s'intéresse qu'à ça, ça remet, on voit que c'est en train d'embêter en cause beaucoup de processus dans la construction. Et la RE2020, ça va être beaucoup d'indices qui vont faire des malus, des bonus sur certains matériaux. On aurait pu penser que ça allait servir à développer des filières comme la pierre sèche ou des éléments comme ça. Mais en fait, on se rend compte qu'aussi, il y a toujours... ça va pas forcément servir à faire une bonne architecture. Il faut vraiment re-questionner ça, parce que ça pose la question des façades lourdes, du carbone en façade. Là, on a des grands... Aujourd'hui, on sait faire des bâtiments pérennes avec de la brique ou du béton, sauf que d'un point de vue carbone, c'est un peu une catastrophe. Donc, comment réussir à... construire des architectures pérennes qui soient aussi bonnes en carbone. Donc ça, juste pour la dimension uniquement de l'architecture, ça pose des questions.
Désirables, surtout.
Qui restent désirables, oui.
Puis pour nous, il y a une des réponses qui est de s'intéresser à l'existant, regarder ce qui a été fait. Les villes, c'est des témoins d'un patrimoine incroyable avec des personnes très... très intelligentes, qui ont réussi à résoudre des problématiques très complexes qui étaient liées à une époque. Le CHU en fait partie, il faut s'inscrire dans ces questions-là.
Apprendre à voir, disait Bruno Zévi.
Oui, apprendre à voir. C'est essentiel, ouais. C'est s'inspirer de l'intelligence de ce qu'on nous a légué, quoi.
Pour revenir sur le dessin, ce que disait Tom, apprendre à voir, en fait, on a vraiment voulu dans ce projet, mais y compris, je crois, dans la partie de l'équipe qui avait travaillé sur Grenoble l'année dernière, passer du temps à représenter l'existant à toutes ces échelles. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces grandes cartes de la ville, pour comprendre en quoi ce qu'on voulait créer, c'était une continuité. Mais aussi aux échelles du sol ou l'architecture, on a fait ces dessins de détails du bâtiment de Rouspice pour voir dans lesquels, voilà, comme un projet de réhabilitation, comment on s'insérait. Se servir de prendre du temps pour représenter l'existant, c'est vraiment une des meilleures manières pour nous, en tout cas, d'appréhender une continuité possible.
Bah écoutez, un beau projet en perspective. Je vous souhaite le meilleur.
Merci.
Un mot de la fin.
On va prendre le taureau par les cornes. On va essayer d'agir à notre échelle et de rester optimiste sur ces questions-là. Mais...
C'est vrai que on peut être pessimiste, mais en fait, toutes ces peurs. Parfois, on a plus de peur que d'espoir sur le monde d'après. Mais c'est aussi ce qui donne l'énergie pour se battre. Donc ça, c'est le bon côté des peurs.
Il faut aussi être inquiet. Mais rester tourné
actif.
Vers les... Voilà, c'est ça.
Agir. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.